Vincent Guenzi, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes stratégiste chez Chollet-Dupont. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Bien entendu, toujours attentif à ce que dit la Réserve fédérale américaine. Est-ce que dernières informations en provenance de la Réserve fédérale américaine changent la donne pour l'investisseur?
Je crois qu'elles changent la donne à court terme. C'est-à-dire que les personnes qui s'inquiétaient d'un mouvement de la hausse de la Fed fin juin se rendent compte que le ralentissement de l'activité que l'on a vu au premier trimestre, qui est sans doute passager, va amener la Fed à différer son premier mouvement de hausse des taux à l'automne. Donc ça redonne un petit peu de tonus au marché américain, ça permet au marché européen de continuer à progresser aussi. Il n'est pas exclu quand même qu'on assiste à une pause dans les prochaines semaines.
Et on voit que, tout de même un débat au sein même de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que ce débat pourrait conduire peut-être à anticiper le scénario qui se met en place aujourd'hui? Alors c'est vrai que les marchés obligataires n'y croient pas, mais est-ce que finalement ce débat ne va peut-être pas s'accentuer au cours des prochaines semaines?
Je pense qu'il a toujours eu lieu, ce débat. Ça montre que la Fed reste avant tout très pragmatique, attentive aux évolutions de la conjoncture sur les États-Unis. On est habitué à ça et je pense que les marchés regardent plutôt les évolutions de cette conjoncture pour anticiper ce que va faire la Fed. Et en tant qu'investisseur action, on regarde aussi ce que font les marchés obligataires. À partir du moment où les marchés obligataires, le 10 ans américain, reste assez sage, ça nous permet de rester serein.
En Europe, on pourrait dire que l'événement de cette semaine, c'est ce qui se passe en Suisse. Quand on voit qu'on emprunte à des taux négatifs sur le 10 ans, effectivement, là, on peut se poser des questions sur ce qui est en train de se passer, finalement.
On se pose des questions en se demandant combien de temps ça va durer. Je crois qu'il n'est pas sain d'avoir des taux négatifs. Je pense qu'on assiste à une prise de risque inconsidérée sur les marchés obligataires, avec également des investisseurs qui sont obligés, pour avoir du rendement, d'aller chercher des durées de plus en plus longues. J'ai vu qu'il avait été lancé un tracker sur les pays de la zone euro périphérique longue durée, c'est-à-dire des emprunts de plus de 20-25 ans. C'est une vraie prise de risque très importante. Donc je ne suis pas inquiet, entre guillemets, parce que je ne crois pas que les taux longs vont monter rapidement et fortement, mais il y a quand même une accumulation de positions spéculatives sur les marchés obligataires qui est un peu préoccupante.
Donc avec toujours ces peut-être plus de volatilité, et puis surtout l'idée, comment on sort de ce phénomène-là?
C'est vrai, mais je pense que la sortie se passera probablement de manière assez raisonnable. C'est-à-dire que comme la croissance ne va pas être très très forte dans tous les pays développés, la sortie de ce quantitative easing se fera de manière très 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 progressive. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la vraie raison d'un changement brutal sur les marchés obligataires. Ce qui est plus la raison d'un changement brutal sur les marchés obligataires, c'est le débouclement des positions spéculatives.
Elle, effectivement, voilà, on ne sait pas jusqu'où ça peut, quel peut être l'impact.
Les gens qui achètent aujourd'hui des taux suisses négatifs, ce n'est pas pour attendre l'échéance. C'est en espérant pouvoir le vendre d'ici 6 mois ou 9 mois ou 1 an si les taux ont encore baissé davantage. Ça devient vraiment de la spéculation.
Alors on pourrait dire que de l'autre côté, on a aussi cette spéculation quand on voit les marchés actions. Mais là, on est un peu avec une contrainte pour l'investisseur, en tout cas, d'aller chercher du rendement là où il est, en l'occurrence sur ces marchés.
Il n'y a pas encore de spéculation, je trouve, sur les marchés actions. Les niveaux de valorisation ne dénotent pas d'un mouvement général de spéculation et d'une bulle sur les marchés actions, même aux États-Unis. Néanmoins, si on a une bulle qui éclate à côté, c'est-à-dire une bulle obligataire qui éclate, il y aura un dégât collatéral sur les marchés actions. Mais pas de la même nature qu'un crack quand il est lié à un effondrement de la conjoncture ou à un effondrement d'une sphère financière comme on l'a eu en 2008. Donc qu'il y ait des accidents de marché liés à des débouclements spéculatifs obligataires, oui. Est-ce qu'il y a déjà une bulle sur les marchés actions? Non.
En même temps, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. On peut voir les entreprises européennes, peut-être pour certaines d'entre elles, bénéficier de cette appréciation du dollar et la baisse du pétrole. Aux États-Unis, inversement, certaines entreprises américaines commençaient à souffrir de cette appréciation forte.
Oui. C'est ce qui explique en partie la différence de comportement qu'on a eue entre les marchés américains et les marchés européens. Moi, je n'exclus pas que sur les deux prochains trimestres, il y a un scénario un peu inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va voir que les États-Unis ressortent de cette phase de ralentissement temporaire au premier trimestre, ce qui serait assez logique, et que les résultats des entreprises vont arrêter d'être dégradés et revus à la baisse, il pourrait y avoir un rattrapage un petit peu du marché américain par rapport aux valeurs européennes. Mais pour l'instant, il est vrai que tout joue davantage en faveur des actions européennes.
Un mot du Japon, là aussi on a beaucoup parlé de la banque centrale, de l'effet des mesures. On peut se dire quelques années après, finalement l'économie japonaise ne se porte pas si bien que ça.
Alors, elle ne se porte pas si bien que ça parce que la reprise forte qui avait été engagée l'année dernière a été complètement cassée par la hausse de la TVA. Et on voit que le pays met un peu de temps à s'en remettre. C'est pour ça que depuis quelques mois, les chiffres sont quand même assez ternes sur l'activité japonaise. Mais il y a le soutien monétaire qui est présent, qui permet d'insuffler de la confiance. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'entre l'analyse de l'activité et la confiance des investisseurs, voire la confiance des entrepreneurs, il y a un grand écart. Donc il y a de la confiance qui est toujours importante pour pour aider l'activité dans un pays. Et il y a quand même un élément important qui vient de se mettre en place au printemps, c'est qu'on a vu des hausses de salaire un peu plus importantes accordées par les entreprises, ce qui est bon pour le pouvoir d'achat, ce qui est bon pour la consommation japonaise, qui reste quand même un pôle encore faible dans le pays.
Un mot sur la Chine, moins de visibilité en 2015 en Chine ?
Pas moins de visibilité, mais une activité moins débridée, contrôlée, et probablement la première année où on va voir un recentrage ou un rééquilibrage entre les activités industrielles exportatrices et des activités plus domestiques et de services. Et l'on voit que depuis plusieurs mois, quand on regarde les indicateurs des directeurs d'achat en Chine, au niveau de l'industrie, ça flirte avec le zéro, c'est-à-dire qu'on est à 50, c'est-à-dire ni forte croissance, ni régression, alors que dans les services, on reste au-dessus. Donc je dirais plutôt une évolution du modèle en Chine, qui fait que l'industrie est un petit peu plus à la peine. C'est ce qui permet également d'avoir très peu de tensions sur les matières premières industrielles. Et par contre, la consommation, les activités domestiques qui vont mieux. Ce qui explique pourquoi aussi les marchés chinois, les indices chinois progressent bien, c'est que ces indices-là, qui sont davantage composés de valeurs moins internationales, bénéficient à plein du rebond de l'activité domestique.
Mot de la fin sur l'allocation d'actifs aujourd'hui, forcément sur les marchés actions.
Alors une vision à moyen terme qui reste toujours très favorable aux marchés actions, davantage sur l'Europe en ce moment que sur les États-Unis. Ça c'est très clair. À court terme, on est bien sûr tenté d'avoir une position un peu plus prudente. On est à plus de 20% de hausse sur les marchés européens depuis le début de l'année. Il n'est pas aberrant de vouloir prendre un peu de bénéfices, de réduire un petit peu l'exposition. Il est très difficile de le faire parce que les marchés ne veulent pas corriger et on se demande toujours si on arrivera à racheter moins cher. Je pense qu'on aura quand même un petit trou d'air, un petit passage à vide au mois de mai. Et donc là, on est début avril, c'est le bon moment pour vraiment réfléchir à une réduction des risques.
Voilà, on verra si le sell in May and go away se réalise cette année. Merci Vincent Ganzi.
Merci Didier.